Pour la dernière fois de 2024, il est avec nous, David Etégui. David, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Stéphane?
Ça va bien, merci, David.
Yes, sir.
David, salut, David, on se voit bientôt, David. On se voit bientôt, faut planifier ça, là.
Bon, parfait, j'ai hâte.
David, on va commencer avec le plus important. Parle-nous de l'échange d'Alexandre Carrier, ton opinion là-dessus, puis aussi sur Barron qui n'a jamais pu s'établir.
Ben, premièrement, l'échange, à première vue, il a l'air très intéressant pour les Canadiens. Carrier, on le connaît beaucoup moins, peut-être de ce côté-ci, parce que bon, il joue à Nashville depuis tout près de 4 ans, mais c'est un gars qui est quand même, bon, c'est défenseur droitier, signé jusqu'en 26-27. C'est pas le gars le plus gros, tout le monde le sait, mais il est mobile, il est actif, il bloque des lancers, il est capable de jouer en désavantage numérique. C'est un gars qui joue contre des bons attaquants, il est capable de te donner 20 minutes de jeu par match, il est capable de donner 25 à 30 points dans une saison qui a de l'allure. Donc, moi, je pense que je me dis, j'ai entendu beaucoup de gens, Georges, parler de son 3,75 millions. Les amis, 3,75 millions pour un défenseur qui est capable de jouer des fois sur une deuxième paire et te donner 20 minutes et être capable d'être mobile comme ça et avoir quand même un sens du jeu intéressant, parce que même offensivement, il n'est pas reconnu, mais il a un bon œil, il a une très bonne première passe en sortie de zone. Il y a des belles qualités, Carrier. Le seul down, c'est sa grandeur, qui est à 5 pieds 11. Donc moi, je pense que pour les Canadiens, c'est parfait. On était à la recherche d'un défenseur droitier stable, parce que Barron, c'est la preuve, encore une fois, les amis, que les équipes ne laissent pas aller un gros défenseur, grand, offensif, défenseur droitier, comme ça. On laisse pas... on disait, quand on a été chercher pour les Konen, on a dit, ben là, on a été chercher un grand défenseur droitier, comment que l'Avalanche ont laissé partir ça. De la même manière qu'on dit, comment est-ce que Chicago, ils ont laissé partir Dak, un grand joueur de centre. Les amis, contre les équipes, lâchent la serviette sur des joueurs comme ça. Souvent, il y a des raisons. Donc, c'est le cas de Barron. Je lui souhaite de rebondir et d'être capable de mieux enrober son jeu pour faire en sorte qu'il ait une place dans la Ligue nationale. Mais Carrier, tu viens d'aller chercher un gars stable qui est capable de, qui va être là pour minimum les 2 prochaines saisons, qui va stabiliser la 3e paire et qui va peut-être aider même au niveau de la 2e paire de temps en temps. Donc, c'est parfait. Très bon échange pour les Canadiens.
On en parlait avant la pause, David. Curieux de t'entendre là-dessus. C'est sûr que le Canadien avait un besoin là, avec un défenseur droitier. C'est un gars qui va jouer en désavantage numérique, qui est capable de bloquer des lancers. Ça nous amène à l'effet domino. Oui, on était mince du côté droit, mais en raison de cette arrivée-là, de ce jeune vétéran, est-ce que tu penses que là, le Canadien de Montréal échangera David Savard à la date limite des transactions?
Ah, c'est 1000%, il est parti. Parce que, en réalité, là, David Savard, la seule manière qu'il ne part pas, David, c'est si les Canadiens sont à la porte des séries rendues à la date limite des échanges. Si les Canadiens sont dans la course, ce qui n'est vraiment pas le cas à l'heure actuelle, mais advenant le cas où s'ils seraient dans la course à 2-3 points des séries, ou peut-être dans les séries, là, tu peux dire, j'ai besoin de lui. Je rentre dans les séries, j'ai des jeunes joueurs, j'ai besoin de lui. Mais David, il va commencer à ralentir. C'est un gars qui est plus âgé, qui joue un jeu qui est très physique, qui est très demandant. Il y a du millage. Et là, tu amènes Carrier, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est David Savard 2.0. Non, David Savard, il est beaucoup plus gros, il est plus lent. Carrier est plus rapide, il est plus actif. C'est différent, le même style en profondeur, mais c'est pas nécessairement le même genre de joueur. Mais Carrier va être capable de jouer ce rôle comme deuxième, troisième paire, ce que David fait maintenant. Et à 28 ans, 4 ans d'ancienneté dans la Ligue nationale, un Québécois, il va être capable de bien s'intégrer dans l'équipe, aider les jeunes. Donc, je pense que David va rapporter, s'il reste en santé, un très bon asset pour les Canadiens de Montréal qui vont être capables de monnayer cet été pour aller chercher ce qu'ils ont vraiment besoin.
Là, David, écoute, on va te parler de Madison parce qu'il y a des gens qui disaient on aurait échangé Madison au lieu d'échanger Savard. Qu'est-ce que tu penses de ça, premièrement? Puis, advenant que le Canadien voudrait échanger Madison, comment tu penses qu'il vaut?
Non, Madison, moi je pense premièrement que tu n'échangeras jamais Madison avant Savard. Jamais. Madison vaut plus que David Savard. Il faut ouvrir les yeux, là. C'est sûr que peut-être qu'on est un peu déçu cette année. Il y a des affaires qu'on a moins aimées de Matheson. Mais Matheson, il jouait comme un Norris quasiment l'année dernière. Faut pas oublier ça. La grande différence, c'est que au niveau de l'âge, on sait qu'il est plus jeune, Matheson, mais c'est surtout sa fluidité, son coup de patin. qui va lui permettre de jouer beaucoup plus longtemps que David dans la Ligue nationale, à mon avis. C'est un gars qui va sortir du trou, qui va pouvoir jouer, suivre le rythme des jeunes, même si les Canadiens, les Demidov, tous ces gens qui arrivent. Matheson peut jouer là. Matheson est capable de piloter un deuxième power play, il est capable de jouer sur le premier, il peut te donner des ultra grosses minutes. Tu n'échanges pas Matheson, à moins vraiment d'être dans une situation où tu as d'autres vétérans de cette qualité-là. Et je pense que si c'est le choix entre les deux, c'est clair que non. Maintenant, si demain je mets Matheson sur le marché, je comprends que la saison est plus difficile, mais je pense que tu vas avoir une meilleure valeur de retour avec un Matheson qu'un David Savard à l'heure actuelle.
Bon, on a discuté de ça cette semaine et ça a fait grandement réagir, et même que là, il y en a plusieurs sur la messagerie qui nous écrivent « Hey, oubliez pas de parler et de demander à David ». L'histoire de Patrick Laine et ses débuts avec le Canadien de Montréal, David, 6 buts en 7 matchs, 6 buts en avantage numérique, 6 buts à la même place ou presque. Il y en avait 6 l'année passée en 18 matchs avec Columbus. De un, est-ce que tu penses que maintenant, il fait partie du noyau de cette reconstruction du Canadien de Montréal? Et sinon, on spéculait et on s'amusait. Quel genre de contrat serais-tu à l'aise de lui donner ou quel genre de contrat penses-tu qu'il pourrait recevoir si jamais on décide de devancer tout ça?
OK. Premièrement, on avait été les premiers ici à notre émission de parler de Laine, je vous en avais parlé. Il va venir à Montréal, il y a des bonnes chances. On a été les premiers à le dire, il y avait une raison pourquoi j'avais de l'information qui était intéressé à venir à Montréal, mais pas juste ça, parce que c'était le genre de joueur sur lesquels le Ken Hughes pouvait miser et recevoir beaucoup pour très peu. Donc Laine arrive ici, ça commence mal, il se blesse. Là, il revient, il est en feu. La réalité, c'est que demander de re-signer un gars comme Laine avec ce qu'on voit alors actuellement, c'est sûr que la réponse, elle est oui. Mais là, je veux me calmer un peu. Puis je me dis, je suis le DG des Canadiens de Montréal, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Premièrement, je suis hyper content de ce qu'il fait. Et là, on peut voir, les amis, que le sport, là, c'est 80% dans la tête que ça se passe. C'est 20% sur la glace, 80% dans la tête. Je l'ai toujours dit à mes joueurs. Et là, on voit Patrick Laine, tu me parlais de la production l'année dernière, VS cette année, et on voit la différence. Pourquoi? Il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, il sent bien. Et c'est ce qui fait la différence. Le gars, il n'a que 26 ans. Donc maintenant, je suis DG des Canadiens, qu'est-ce que je fais? Je le signe pas tout de suite, j'ai un an et demi pour l'évaluer. Qu'est-ce que je veux voir exactement? Je veux être capable de voir, est-ce qu'il va être capable de continuer toute la saison comme ça? Puis je parle pas d'un but par match, là. OK? Mais s'il est capable de m'en donner un ou deux, c'est déjà immense. S'il me donne en 50 parties 25 buts, c'est immense. Ou 30 buts, c'est immense. Ensuite, je vais être capable de voir les problèmes qui l'ont tenu à l'écart du jeu. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est je l'ai chassé puis il est revenu au galop? Ou est-ce que, franchement, il est qui il est? Et j'en rajoute encore plus. Est-ce que il va rester en santé? Parce qu'il y a eu quelques graves blessures dans les dernières saisons. Est-ce qu'il va rester en santé?
Ah oui.
Si le gars, il reste en santé, les amis, et qu'il produit un but aux deux matchs, je lui demande pas 70 buts par saison. Entre 35 et 40, c'est parfait. Si ce gars est capable de faire ça, l'année et demie qui lui reste, là, c'est le genre de gars que les Canadiens vont, quand on parle d'un deal local pour rester, c'est le gars parfait pour faire ça. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'être bien dans sa tête, puis il a compris ça. Puis il a compris que c'était ici pour le moment. Puis madame est de bonne humeur et elle aime ça, Montréal. Et les partisans sont magnifiques avec lui. Puis il a pris du plaisir à jouer, puis il aime jouer au Canada. Il n'ira pas signer pour 1 million de plus ou deux ailleurs. Ça n'arrivera jamais. Mais il va vouloir être payé. Donc si advenant le cas où toutes ces choses-là vont bien, moi je lui fais deux offres. Je me tiens serré sur du 6 ans. Je veux pas aller 8 ans. Je me tiens serré sur du 6 ans. OK, je sais qu'il va vouloir du 8, c'est sûr, il n'y a que 26 ans. Il va signer à 28 ans. Donc, je le signe 6 ans jusqu'à 34 ans. Je lui dis, écoute, je t'augmente à 9 millions, 9,2. Je te donne 6 ans. Je t'en donne plus pour plus court. Maintenant, peut-être que sur le marché, il va en valoir 10, 10,5. Mais moi, je lui dis, écoute, c'est moi, c'est 9, 9,2, c'est 6 ans. Si tu veux 8 ans, qui est 2 ans de plus, ça t'amène jusqu'à l'âge de 36 ans, je te donne le salaire à Suzuki, 7,88. Tu vas avoir une légère baisse, mais je te garantis 8 ans, ça te donne 60 millions dans les alentours. Qu'est-ce que tu préfères? Et là, ça va être lui de prendre une décision.
Ah ouais,
et dans le cas des Canadiens, je pousse. je pousse sur le 6 ans. 6 ans, j'ai pas de problème. S'il m'a donné un an et demi solide, j'ai pas de problème à le faire signer, à le faire jouer pour moi à l'âge de 28, 29, 30 jusqu'à 34 ans. Il va produire pendant les 6 prochaines années.
Là, David, de notre côté, Lane Hudson, qu'on peut signer dès cet été, est-ce que tu penses que l'équipe va faire comme ils ont fait avec tous les autres jeunes, va donner un pack de 8 ans? Puis si oui ou non, selon toi, ça va ressembler à quoi?
OK. Selon moi, ça va être vraiment ça, les amis. C'est tellement facile, Lane Hudson, pour tout le monde. Là, à la maison, on dit, qu'est-ce que David est en train de dire maintenant? La réalité, c'est que ça va être une négociation facile si les deux clans veulent arriver à une entente. Et je m'explique. On prend un peu la carrière de Hudson, il vient de commencer, 20 ans. Il s'en va pour une saison d'à peu près 53, 54 points, 55 dans le meilleur des scénarios, 56. Et là, on se dit, mais quel est le comparable? À qui je le compare? Très facile, les amis. On a un paramètre de négociation qui s'appelle Quinn Hughes. Quinn Hughes, là, écoutez bien ça. Il a signé avec Vancouver exactement 21 ans, comme ce qui serait le cas pour les Canadiens. Il a signé en sortant d'une saison recrue de 53 points, exactement comme il s'en va. Et il a signé 7,85 pour 6 ans. Maintenant, pourquoi je félicite Quinn Hughes? Parce qu'il a eu l'audace de ne pas vouloir aller plus que 6 ans.
Ouais.
Entre-temps, il a gagné le Norris. Donc, ce gars-là, maintenant, il en vaut 11. Mais il a signé 7,85. Moi, je suis les Canadiens de Montréal. Je suis maintenant Hughes. J'appelle l'agent, puis je l'écoute bien, là. Je t'offre le même deal que Quinn Hughes a reçu au même âge, à 21 ans, même nombre de points, même genre de joueur, même grandeur, même tout ce que tu veux. Même marché canadien. Je t'offre 7,85 millions pour 8 ans et non 6.
Oui, parce que j'allais te dire, David, puis c'est sûr que ça va jouer dans les négociations, puis s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien toi, c'est qu'on va décider d'y aller avec le pourcentage du plafond. Et là, avec la hausse du plafond, on va dire, ouais, mais attendez.
Ils le feront pas, je vais t'expliquer pourquoi les Canadiens doivent jouer serré. Parce qu'ils vont dire, écoute, il n'y a rien qui nous garantit que Lane Hudson va gagner un no-risk comme
Quinn Hughes. Ben non, c'est sûr.
Donc, automatiquement, je te donne le même salaire, avec 100, et il a gagné ce salaire Hughes en gagnant un no-risk, puis il reste 2 ans encore au contrat. Donc là, c'est sûr que l'agent va revenir avec « Oui, mais là, écoute, ça fait 4 ans de ça qu'il a signé. »
Exact.
« À l'heure actuelle, dans ton marché, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Fait qu'en réalité, j'en veux 8,5. Oui, mais il a signé 6 ans. Moi, je t'en donne 2 de plus. » Ça va jouer à l'intérieur de ça. Mais moi, je pense que les Canadiens, s'ils s'en sortent au même contrat, 7,85, qui est encore là par hasard, le salaire de Suzuki.
Exact. C'est okay? Ça aussi,
tu
le barème.
Tu te retrouves à avoir 7,85 sur du 8 ans. Et s'ils veulent s'en tenir à 16 ans, je vais définitivement pas au-dessus de ça, même s'il y a 4 ans qui sont passés. Parce que encore là, malgré toutes les qualités que Lane Hudson il a, il ne rentre pas avec le même pédigré que Quinn Hughes. Quinn Hughes, il y avait une lacune défensive, et je pense que Hudson est meilleur à l'heure actuelle que Hughes lorsque Hughes est rentré défensivement. Mais offensivement, je pense qu'on s'en attendait un peu plus de Hughes qu'on s'attend de Lane Hudson. Et là, à l'heure actuelle, on est en train de voir que peut-être que Lane Hudson va être dans la catégorie des Quinn Hughes au niveau de la production de points et pas loin d'un McCarr qui change la donnée. Donc, je suis les Canadiens, je force là-dessus puis je fais tout pour le signer cette année sur du 8 ans à ce salaire-là.
David, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'automne avec la fenêtre de transactions et le gel des transactions pendant la période des fêtes. Là, hier, il y a eu Capo Caco, tu as eu Alex Carrier-Barron, on a eu Pierre-Olivier Joseph également. As-tu déjà vu ça autant d'équipes actives avant Noël? Et est-ce que tu penses que pour le Canadien de Montréal, on va continuer d'être actif comme ça? Parce qu'on a souvent parlé aussi de joueurs de centre et de gardiens de but auxiliaires.
Donc, premièrement, surprenant, on est en train de voir que les équipes ont plus peur maintenant de prendre des décisions nécessaires plus tôt. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont encore espoir de faire des séries. Et là, on se dit, attendre jusqu'au deadline, c'est peut-être trop tard. Donc, on a une chance, on veut réparer les erreurs de bonheur, on fait ça. Donc, c'est des échanges mineurs. On n'a pas échangé Victor Hedman. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit au moins un peu de mouvement. Ceci dit, par rapport à ta question, ça va dépendre. Un gardien, moi, j'ai pas de problème que les Canadiens de Montréal aient une offre intéressante pour aller chercher un deuxième gardien qui va être capable de donner une coupe de saison, pas trop cher, un vétéran, comme on en a parlé par le passé, j'ai pas de problème avec ça. Avec un joueur de centre, j'ai un sacré problème. Et je vous l'explique pourquoi. Et je l'explique en trois points différents. Le premier point, tu ne peux pas aller chercher un joueur de centre à l'heure actuelle, maintenant. Il faut absolument que les Canadiens terminent cette saison. La saison, elle est déjà avancée. Il faut que tu analyses vraiment tes joueurs de centre que tu as sous la main. Tu as New Hook et spécifiquement Dak. Il faut que tu sois sûr que tu leur as donné toute la saison pour voir s'il y a une étincelle, s'il y a une possibilité, voir quelle est la réalité de ces joueurs-là pour dire, moi, je suis sûr que j'ai maintenant un problème comme deuxième joueur de centre. Il faut s'assurer de ça. Mettre ça en arrière, dire, on a fait nos devoirs. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, où est-ce que je repêche? Qu'est-ce qui arrive si j'arrive et je remporte la loterie où je finis dans les troisième, quatrième, deuxième? Et là, je suis capable d'aller chercher un joueur de centre extraordinaire, un jeune, comme on en voit à l'heure actuelle dans les 4-5 premiers qui risquent de sortir. Peut-être que là, ça change la donne.
Ouais.
Puis là, on se dit, ben là, je vais aller chercher un tour, peu importe qui, puis je vais le mettre ici, puis je l'ai mon numéro 2. Je vais pas commencer à donner des assets pour ça. Donc, il faut que tu attends, tu n'as pas le choix. Donc, tu dois voir qu'est-ce que tu as entre les mains d'acte, c'est du vrai ou du faux. Deuxièmement, il faut voir où tu repêches. Et là, troisièmement, tu dis, écoute, là, j'ai compris que je ne repêche pas un joueur de centre qui va être numéro 1 ou 2, assurément. J'ai mes deux gars que j'ai là, New Hook et Dak, c'est pas des joueurs de centre numéro 2, j'en suis persuadé. Là, j'ai des assets. Là, j'en ai des assets. J'ai des choix de repêchage, j'ai des jeunes joueurs, j'ai des prospects à presque toutes les positions. J'ai tout ce qu'il faut pour aller chercher une vedette au centre. Et je vais aller plus loin. Qui est le premier choix l'année prochaine dans le draft? Je parle pas de cette année. L'année prochaine.
Gavin McKenna.
McKenna, c'est un fou, ce gars-là. Vous l'avez vu, pour moi, je le prends avant Bédard dans mon équipe. Il est incroyable, ce gars-là. Fait que, attendez-vous à ce que cet été, il y a des équipes qui sont borderline, un peu vieillissantes, qui vont vouloir commencer, comme Bédard, à perdre. Et là, ils vont se retrouver à vouloir liquider des salaires, des vedettes, dans les alentours de 28, 29, 27, pour être capable de baisser. Et les Canadiens, avec toutes les assets qu'ils ont dans les mains, ça va être un walk in the park de faire une transaction cet été. Donc, c'est ça le plan. Plan numéro un, est-ce que j'ai les effectifs ou ils sont pas bons? Numéro deux, où est-ce que je repêche? Numéro trois, j'y vais puis je vais chercher le joueur que j'ai besoin.
David, les Capitals sont rendus des contenders. Est-ce que tu es surpris de leur succès en ce moment?
Hey, Antoine est à l'écoute, là.
Ben, surpris? Surpris à cause d'une seule affaire. Est-ce que si j'aurais, on m'aurait dit, David, mais 50$ c'était pour la saison qui vient, qui va être la meilleure défensive de l'Est rendue là? C'est Washington. Washington, c'est la deuxième meilleure défensive de la Ligue nationale à l'heure actuelle. Ils ont donné que 83 buts. Et ils sont troisième en attaque de toute la Ligue en plus. Premier ou deuxième dans l'Est. Donc là, ils se retrouvent non seulement à être bons, comme ils ont toujours été offensivement, mais en plus de ça, ils ont été capables de rajouter de la défensive. Et ça, c'est merci à quoi? C'est merci à des gars qui ont ajouté comme Chychrun à la défense, qui leur a donné 21 points, qui a stabilisé. Il y a plein de joueurs qui font la différence. Les deux gardiens, Thompson et Lindgren, ont fait du bon boulot.
Ouais,
Dylan Strome, 38 points, mais qui aurait cru ça? Dylan Strome, il vient de nulle part, ce gars-là. Et là, soudainement, t'as Mike Mycock, Protest, tu as Ovi qui s'en allait pour le record avant de se blesser. Donc, une saison record au niveau de l'attaque. La défensive, chez Quinn, a fait toute une différence. On joue beaucoup mieux un style de jeu et les gardiens sont solides. Donc, pour le moment, est-ce que ça va tenir le coup? J'ai aucune garantie. Mais pour le moment, ils le méritent. Félicitations. Deuxième à un point des Devils, première place de leur division.
David, revenons sur la situation des Rangers un peu. Ça a été une semaine assez spéciale pour eux. Les défaites continuent à s'accumuler. Des rumeurs sur Chris Drury, la réunion des joueurs contre Chris Drury en raison du traitement de Goudreau, de Trouba. Et là, même les gars de Spitting Chicklets qui parlaient d'une rumeur de Sean Avery. Et hier, on a échangé Capo Caco contre rien ou à peu près. On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas?
On a sacrifié l'agneau.
Exact.
Caco, il a ouvert la bouche, on a dit on va le prendre. Lui, déjà, on n'était pas content de lui.
Exact.
On l'a signé sur un an pour voir qu'est-ce qu'on allait faire avec lui. Y compris, on sacrifie l'agneau pour essayer, entre parenthèses, de passer un message qui donnera absolument rien parce que Drury, c'est fini. La seconde que tu perds ta chambre, puis là, c'est un plus haut niveau parce que même la violette va peut-être lever les pattes. Pour le moment, là, les joueurs, ils n'ont rien contre la violette. Mais Drury, s'il reste en poste, lui, va vouloir faire un changement. Ça risque d'être la violette qui va payer le prix. Puis si ça marche pas, là, ça va être Drury. Mais l'histoire de que j'entends partout de Avery, la seule affaire qui ne me surprendrait pas, Stéphane, c'est que James Dolan, le propriétaire des Rangers, il a été capable de jeter dehors Davidson et Gorton pour rien. Pour rien. Donc, qui est capable de faire ça, il est capable d'engager Avery. Maintenant, entre vous et moi, Avery, ça serait un manque de crédibilité horrible.
Total.
Pour la Ligue nationale. Pour la Ligue nationale. Et là, on parle d'une franchise, la franchise qui a le plus de valeur devant les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, ou presque. Et tu mets Sean Avery, le gars qui va te donner des problèmes de communication, qui va mal faire paraître la Ligue nationale, qui va parler mal à ses joueurs, qui va parler dans les médias comme un fou. Tu vas le mettre là comme DG. Ça devient un cirque.
Moi,
ça n'arrivera jamais. À moins que James Dolan, mais c'est lui qui paye. C'est lui qui paye les chèques. Tout est possible. Mais c'est sûr que, à mon avis, c'est la Violette qui va payer en premier. Parce que si Drew Reeve, on ne veut pas le congédier tout de suite, lui doit prendre une action. Et par la suite, ça va être lui. Il va falloir qu'il se mette à rechercher. Puis les Rangers, ils ont fait une reconstruction qui ne marche pas. Parce que le cœur, à l'heure actuelle, Kreider et tous ces gars-là sont vieillissants. Et là, on voit que ça ne s'en va pas tout à fait dans la bonne direction. Ils ont intérêt à arranger ça vite fait.
Puis David, pour finir, ben, la situation des Prédateurs, là, ils ont échangé Carrier. Est-ce que tu penses
là,
on
entend Cousins. Là. Ça a l'air que les Prédateurs seraient peut-être intéressés à Dylan Cousins puis des Sabres. Alors,
mais
à suivre.
Penses-tu qu'ils vont commencer à vendre David Trotz, son équipe s'en va nulle part?
Je vais aller au marché aux puces Saint-Eustache. Je vais installer une table. Là, je vais prendre des paires de jeans qui valent 20$ puis je vais vouloir les vendre à 40$. OK? Et puis là, la réalité, on veut bien rire, mais la réalité, c'est que personne ne va me les acheter, ils vont rester sur ma table. OK? Puis la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, les Predators, là, quand t'as un gars comme Stamkos à 8 millions qui a ça jusqu'à l'âge de 38 ans, Marchesso à 5,5 jusqu'à l'âge de 38 ans, t'as un gars comme O'Reilly à 4,5 jusqu'à 36 ans, t'as Brady Shea qui te coûte 7 millions puis qui reste plein d'années puis qui t'a rien que donné 7 points.
Il y a quasiment des clauses à tout le monde, David, aussi, en plus. Des clauses de non-mouvement pour la majorité des gars.
Fait que lui, il y a des jeans à 20 pièces qui veut vendre ça à 40 ou 50$. Il n'y a personne qui va acheter ça. Il n'y a rien. Il est mal pris. Il a battu une équipe, je vous l'ai déjà dit, pour gagner dans les 3 prochaines années. Il ne peut pas se revirer de bord puis passer son erreur de Stamkos, l'erreur de Marchesso, parce que c'est une erreur, et de Brady Shea, puis tout ça, à toutes les autres équipes. La Ligue nationale sont beaucoup trop vite. Peut-être qu'on va lui dire, je te prends ton Josie à 9 millions, je te prends Forsberg à 8,5, je te prends Saros à 7,75. Mais les quatre autres, là, qui sont en train de te couler, là, à eux, ils te coûtent à peu près 20-quelques millions sur ta masse, là. Lui, il est mal pris. Donc, moi, je pense qu'il fait des changements, mais il espère encore gagner. Et je pense qu'il va vouloir, c'est comme Carrier, c'est du 3,75 pour lui, c'est un défenseur 5-6-7, il n'y a pas de problème. Mais il va garder, il n'y aura pas le choix de garder ces éléments. Qui a signé pour le moment, parce qu'il n'y a même pas assez de premier choix dans les 5 prochaines années pour donner ça, pour être capable de passer tout ce bois mort ou ces affaires-là. Donc, non, je pense qu'il est mal pris. Puis, dommage, parce que Trotz, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un bon gars de hockey, un excellent coach, mais là, il est mal pris comme DG. Puis, malheureusement, il va apprendre à la dure, puis c'est ça qui arrive.
Ouais. Merci, David.
Hey, David, les gens veulent savoir de nous aviser là, quand tu seras au marché aux puces à Saint-Eustache. Les gens veulent aller te saluer. Et Pierrot qui dit « Je savais que j'avais vu David à quelque part. Là, c'était sûrement au marché aux puces à Saint-Eustache. » David, joyeuse fête, David. Bonne chance avec tes jeans. Puis on se reparle très bientôt, mon ami.
Bonne fête, les amis. Puis bonne fête à tous nos auditeurs. On vous apprécie beaucoup.
Salut, David.